play as time goes by.
Bienvenue dans l'histoire qui raconte notre histoire.
Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon.
On reste à peu près au même niveau sur l'échelle du dégueu.
C'est la première fois qu'on traite d'atmosphère.
Brisons nos codes, brisons nos idées reçues.
Vers l'infini.
Compteur d'ondes.
À travers le temps et l'espace, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, Des Mesures vous propose de plonger dans la complexité des échelles.
Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, Thomas s'interroge sur la notion d'infini.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des sujets qui me tient le plus à cœur. Une question si profondément inutile que peu de gens ont finalement osé se la poser. Mais moi, voilà, tout ce qui est inutile m'intrigue, tout ce qui est compliqué me passionne. Je suis un adepte de la masturbation intellectuelle, de l'onanisme cérébral, et la question que je vous pose aujourd'hui est « L'infini existe-t-il ?» S'il est un concept qui, de mon point de vue, est très mal compris par la plupart des gens, c'est bien l'infini. C'est pourtant un des premiers concepts mathématiques complexes que l'on apprend, et l'on est presque sûr de l'appréhender de façon correcte. En effet, quand vous demandez à votre petit-neveu de 5 ans quel est le chiffre le plus grand, il vous répondra après une petite hésitation, 10 000 bien sûr. Puis, à votre air sceptique et à votre « et si j'en rajoute un ?», il finira par admettre que les nombres, eh bien, ça ne finit jamais. Il y aura toujours un nombre plus grand, et c'est ce qu'on appelle l'infini. À partir de ce moment, on arrête d'y réfléchir et on range ce concept de l'infini dans la catégorie des curiosités mathématiques, dont il vaut mieux ne pas se préoccuper au risque d'attraper un mal de crâne métaphysique. Certains d'entre nous, cependant, ont continué à utiliser l'infini, notamment lorsqu'en terminale, le prof de maths vous demande pour la première fois d'exécuter une intégrale de 0 à l'infini. Le mal de crâne métaphysique pointe alors le bout de son nez. Mais le prof vous explique calmement que faire une intégrale de 0 à l'infini signifie simplement sommer une quantité sur tout l'univers. Et hop, on se débarrasse de la notion nébuleuse de l'infini, en disant simplement que l'infini, ben, c'est l'univers. C'est un doliprane métaphysique qui marche, je dois le dire, assez bien. Il me faut maintenant admettre que je suis moi-même un peu masochiste. Et que le mal de crâne métaphysique, à l'image du fouet du sulfureux Mr. Grey sur les fesses inexplorées d'Anastasia Steele, réveille en moi des instincts inavouables. Je commence à prendre goût à la crise existentielle qui me ronge comme une lame de fond quand je me prends à penser « Mais flûte, l'infini, on se demande des fois ce que c'est vraiment. » Je me sens toute chose quand je décide enfin à taper « Infini » sur Wikipédia et à voir que je ne suis pas le premier à m'être posé la question. Anaximandre, Héraclite, Paraménide, Mélissos, Démocrite, Zénon. Je découvre que la pratique de l'onanisme intellectuel remonte au temps de ces Grecs en sandales avec des noms de Pokémon. Et même bien avant. Mais comme Anastasia Steele, je préfère me faire attacher avant de pousser les portes de Sodome et Galilée. Le pas est franchi quand je tombe donc sur une vidéo YouTube de l'excellent Michael DeVisos, et sa vidéo How to Count Past Infinity, ou en français, Comment compter après l'infini, dans laquelle il commence par expliquer comment définir ce concept si abstrait et étrange des trucs qui n'en finissent pas. Un moyen mathématiquement rigoureux et facile à appréhender d'approcher le concept est de parler en termes d'ensemble. Un ensemble, c'est simplement une boîte dans laquelle je mets des choses. Des objets mathématiques, des objets réels, peu importe. Un ensemble que je côtoie régulièrement est situé juste devant mon salon, chez moi, dans la cuisine, à côté de la gazinière. C'est mon frigo. Cet ensemble contient des aliments. Le nombre d'aliments que contient mon frigo est appelé son cardinal. J'aime à ce que le cardinal de mon frigo soit le plus élevé possible. De cette façon, je peux me gaver de cornichons en attendant que finisse de cuire mon saucisson brioché, en bon lyonnais, et savoir que j'ai le droit à un yaourt et même à une bière après avoir fini tout ça. Un ensemble, donc, est caractérisé par le type d'objet qu'il contient et par la quantité de ces objets présents dans cet ensemble, son cardinal, donc. Parlons maintenant d'un ensemble un peu particulier, l'ensemble des nombres naturels, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, etc. Ce sont les nombres utilisés pour compter. On peut, a priori, les mettre dans un ensemble. Le cardinal de cet ensemble est donc, bien sûr, l'infini. On y est. Le premier coup de fouet jubilatoire. Ressentez-vous comme moi ce grand frisson? Le but de la vidéo dont je vous parle est de compter après l'infini. Il passe donc un petit moment à décrire différents types d'infinis que je ne vais pas traiter aujourd'hui. À un moment, il stoppe l'explication et dit « Hé, attendez, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Si on peut toujours ajouter 1 à tout moment, est-ce qu'on peut vraiment parler de ce processus sans fin comme d'un tout ?» Il finit par dire qu'il y a une certaine branche de la philosophie des mathématiques, appelée le finitisme, qui ne croit pas en la réalisation possible d'un ensemble de cardinal infini, qui ne croit donc pas en l'infini. Il n'en fallait pas moins pour exciter ma curiosité. Alors, en mauvais chercheur que je suis, j'ouvre bien sûr Wikipédia, source de tout savoir utile comme inutile. Je ne vais pas vous dérouler l'histoire de l'acceptation de l'infini, mais pour résumer, elle a été tumultueuse. Aristote lui-même ne croyait pas en son existence, et quand Cantor a commencé à travailler dessus, l'apparition de trop nombreux paradoxes a amené beaucoup de mathématiciens à prendre position contre l'infini. Cependant, il fallait bien reconnaître que l'infini est super pratique comme outil mathématique. La communauté s'est alors scindée en deux. D'un côté, ceux appelés aujourd'hui les platonistes, dans le sens où ils considèrent l'infini comme un objet idéal, et de l'autre côté, les finitistes, plus conservateurs, qui continuent à voir d'un mauvais œil ce truc qui n'en finit pas. Il va sans dire que ces derniers sont infiniment moins nombreux que les premiers, et un mathématicien qui se déclare finitiste aujourd'hui, c'est un peu comme un astronome qui vous dirait que la Terre est plate. Ce qui se défend, mais ce sera pour une prochaine fois. Le finitisme est un point de vue cependant assez intéressant, puisque l'infini entre maintenant dans la classe des axiomes. Vous savez, ces choses mathématiques dont on dit, allez, on dit que c'est vrai. Mais si vous voulez un point de vue encore plus étrange sur l'infini, allons voir du côté de l'ultra-finitisme. C'est une position encore plus conservatrice que le finitisme, et devient de ce point de vue paradoxalement attirante et novatrice. En effet, les ultra-finitistes pensent que les grands nombres n'existent pas. Ils n'existent pas parce qu'on ne pourra jamais les construire. On ne pourra en somme jamais les écrire. Laissez-moi vous expliquer ceci avec une expérience de pensée. Vous savez peut-être que le moyen le plus pratique de stocker un nombre est d'utiliser la notation binaire. Ceci pour diverses raisons, et je ne m'étendrai pas là-dessus aujourd'hui. Mais principalement parce que stocker un nombre binaire, c'est super facile. Il vous suffit d'un objet qui puisse prendre deux états et les garder longtemps. C'est ce qu'on appelle en électronique des transistors. Des composants électroniques pouvant prendre deux états, soit 1, soit 0 donc. Un transistor, en somme, c'est un peu comme un interrupteur. Et suivant si un transistor est sur on ou sur off, il représente un 1 ou un 0. Si on met plusieurs transistors à la suite, on peut commencer à écrire des nombres de plus en plus grands. Par exemple, pour écrire le nombre 627, il nous faut 10 transistors exactement. Imaginons maintenant que c'est une expérience de pensée, et que l'on peut faire ce qu'on veut, qu'on dispose du plus petit transistor possible et que l'on en ait autant qu'on veut. Pour rester dans l'état de l'art de la physique, disons que ce transistor soit une corde, celle de la théorie des cordes. Selon la théorie des cordes, donc, les cordes sont censées être les plus petits objets possibles, avec une taille égale à la longueur de Planck. Mais alors qu'est-ce qu'une longueur de Planck ? Selon la physique quantique, il s'agit de la plus petite distance possible dans l'univers que nous habitons. Il s'agit en somme du pixel de la réalité. On ne peut pas faire un pas d'une demi-longueur de Planck. Bien sûr, à notre échelle, on ne remarque rien, parce qu'une longueur de Planck, c'est très 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 petit. En vérité, ça fait 10 puissance moins 33 mètres, c'est-à-dire 0,00030 fois 1 mètre. Bon, c'est vraiment minuscule. Donc voilà, vous savez maintenant qu'on vit dans un univers pixelisé, de là à dire que l'univers n'est qu'une simulation, il n'y a qu'un pas. Mais encore faut-il que la physique quantique soit vraie. Bon, je m'égare, tellement d'idées pour d'autres chroniques. Donc, si je veux construire le nombre le plus grand, je fais comment ? Je place un transistor de l'espèce susmentionnée en chaque longueur de Planck de l'univers. C'est-à-dire que tous les transistors seraient côte à côte sans espace libre dans l'univers tout entier. Donc voilà, on commence tranquillement à remplir chaque longueur de Planck de l'univers. Pour simplifier encore le problème, disons que notre vaisseau a une vitesse extrêmement proche de celle de la lumière. Parce que pourquoi pas, nous sommes dans une expérience de pensée après tout. Mais que l'univers soit infini ou pas, on se rend vite compte qu'il y a une limite qu'on ne pourra jamais dépasser. C'est l'horizon de l'univers observable. L'univers observable, c'est cette sphère de 10 puissance 80 mètres cubes centrée sur la Terre, au-delà de laquelle, pour résumer, aucune interaction causale n'est possible avec nous. C'est donc la limite indépassable, même avec notre vaisseau filant à la vitesse de la lumière. C'est donc aussi le volume total et maximal que l'on pourra remplir de transistors, quels que soient les moyens employés. J'ai fait le calcul, ça fait environ 10 puissance 113 transistors, de la taille d'une longueur de Planck. Chaque transistor pourra prendre deux états, 1 ou 0, on ou off. Ça nous fait donc 2 puissance 10 puissance 113 nombres possibles stockables de cette façon. Et si on switch tous les transistors sur on, on va donc représenter de cette façon notre nombre le plus grand représentable dans l'univers. 2 puissance 10 puissance 113. Ce qui fait 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, et ceci 10 puissance 113 fois. C'est-à-dire 1 avec 113 zéros derrière fois. C'est gigantesque. Mais ce n'est rien à côté de l'immensité de l'infini platonique. Car en effet, cette question quelque peu futile au final de l'existence de l'infini est un peu comme une parabole pour une question philosophique plus générale. Il s'agit du débat entre platonistes et actualistes. Les platonistes, eux, croient en l'existence d'objets idéaux et parfois abstraits, tels que l'infini. Et les actualistes pensent que seul ce qui est tangible est réel. Les ultra-finitistes, actualistes mathématiciens, prétendent que manipuler des nombres très grands, si grands qu'on ne peut pas les construire, ou même manipuler l'infini, serait comme écrire une histoire au sujet d'une licorne imaginaire. On peut lui faire faire plein de choses, il peut arriver plein d'aventures, mais est-ce que ça veut pour autant dire que la licorne existe ? De la même façon, faire des calculs avec l'infini est aujourd'hui très courant en mathématiques et en physique. Mais est-ce que l'infini existe pour autant ? Et alors, ces calculs ont-ils une quelconque valeur? Après avoir réfléchi un peu, je vous laisse sur ma conclusion provisoire à ce problème. Il faut faire attention à ne pas confondre essence et existence. Ce n'est pas parce que quelque chose a les propriétés que nous pouvons décrire que cette chose existe réellement. Ce n'est pas parce que j'ai dit que ma licorne est blanche et fait caca des arcs-en-ciel que ma licorne existe. Ce n'est pas parce que l'infini peut être manipulé en mathématiques que ceci garantit son existence. Donc, attention à la différence entre essence et existence. Même si ceci n'a aucunement résolu la question d'aujourd'hui, l'infini existe-t-il? Sur cette question ouverte dont je ne connais pas la réponse, je vous laisse à votre mal de crâne métaphysique, en espérant qu'il sera pour vous aussi doux que le sulfureux fouet de Monsieur Gray.
C'était Compteur d'ondes. Réagissez sur Facebook et Twitter.
Retrouvez-nous et nos chroniques sur transistor.fr et notre site web desmesures.jimdo.com. Merci de votre écoute et à bientôt.
Compteur d'ondes.